Carla Bruni est attendue dans Culture Média. Ce sera après les infos de 10h qui sont présentées à l'instant par Marguerite Lefebvre. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Jean Castex promet aux policiers de Dijon des renforts supplémentaires dès la rentrée. Le Premier ministre est en déplacement dans le quartier des Grésilles. Théâtre, il y a un mois de violences urbaines. 3 soirs d'affrontements, de règlements de compte entre des Tchétchènes et des habitants du quartier. Comportements inacceptables selon Jean Castex, qui est donc sur place auprès notamment des policiers. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est à ses côtés. Lui qui reçoit ce matin un message de Jacques Toubon, le défenseur des droits. Il est urgent de réformer le maintien de l'ordre en France. En pleine polémique sur les violences policières, Jacques Toubon demande au ministre de supprimer, entre autres, le LBD, ce lanceur de balles de défense qui a déjà gravement blessé de nombreux manifestants. Message du défenseur des droits, message des associations féministes également, qui, elles, ne digèrent toujours pas la nomination de Gérald Darmanin, place Beauvau. Il est visé par une enquête pour viol. Des associations appellent à des rassemblements un peu partout en France aujourd'hui, à Toulouse, Lille, Marseille ou encore à Paris, où le rassemblement est prévu à 18h devant l'hôtel de ville. Elisabeth Borne promet des dispositifs pour aider les jeunes à entrer sur le marché du travail au mois de septembre. L'objectif, c'est qu'aucun jeune ne se retrouve sans solution. Voilà ce que déclare ce matin la ministre du Travail sur Europe 1. On attend donc désormais la réponse du gouvernement à moins de 2 mois de cette période cruciale pour 700 000 jeunes. Emmanuel Macron demande ce matin à Israël de renoncer à son projet d'annexion contraire au droit international. Benjamin Netanyahou veut mettre la main sur une partie des territoires palestiniens en Cisjordanie. Nouveau message envoyé par la France après la menace de Jean-Yves Le Drian la semaine dernière. Paris menaçait alors de reconnaître la Palestine en cas d'annexion. En France, la trêve hivernale s'achève ce soir, ce 10 juillet au soir, en plein été. Repoussée en raison de la crise sanitaire et du confinement, les expulsions locatives vont pouvoir reprendre à partir de demain. La mesure coïncide avec la fin de l'état d'urgence sanitaire. La France ne sera plus en état d'urgence à partir de demain. À Versailles, 2 personnes ont été interpellées après un match de foot qui s'est transformé en bagarre géante à coups de batte de baseball et de barre de fer. 5 personnes ont dû être hospitalisées, touchées pour la plupart au visage. La bourse de Paris est en baisse, moins 0,6% à l'ouverture. Le CAC est en dessous de la barre des 4900 points. La crème du foot européen sera fixée tout à l'heure à midi avec le tirage au sort de la Ligue des Champions, de ce Final 8 organisé à Lisbonne à la fin du mois d'août. On s'en approche. Cette année, la fin de la compétition prendra la forme d'un mini-tournoi avec des matchs à élimination directe organisés dans des stades vides. Le huis clos a été officialisé hier, tirage au sort. À midi donc, attention aux orages cet après-midi en fin de la Haute-Loire à la Haute-Savoie. On attend par endroits de la grêle. Ailleurs, on va alterner soleil-nuages avec des pulls. Il fait beaucoup plus frais qu'hier, 18 à Brest, 22 à Paris, 23 à Biarritz. Et tout de même, ce sera le record, 34 degrés en Ardèche où les orages vont éclater cet après-midi.
Chouette.
Ça vous convient mieux qu'hier, c'est ça?
Ah bah oui, vous avez fait un effort là, j'ai bien remarqué. Bah
voilà.
Marguerite Lefebvre.
C'est récompensé.
Ouais, merci. On vous attend à 11h pour les prochaines infos.
À tout à l'heure.
Moi, j'espère bien.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, rebonjour. Voilà 7 ans qu'elle n'avait pas sorti de titre original. Et puis aujourd'hui, ce petit quelque chose. Premier extrait d'un nouvel album à venir à l'automne. Carla Bruni est dans Culture Média ce matin avec ce quelque chose que nous écouterons ensemble. Les Indispensables, Nicolas Caro nous livre son dernier coup de cœur littéraire. Et puis première page, vous découvrez tout l'été en avant-première, la première page d'un des romans de la rentrée. Ce sera qui ce matin? Oh bah, mystère. Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1, belle matinée à vous. Le journal de la culture est imminent. Bonjour Damien Cabrespine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui?
Au sommaire, une flèche à l'identique, un tube de l'été des Césars qui se réinventent, un coup de gueule d'Akhenaton, Mathieu Chédid dans un documentaire et le retour d'un groupe britannique.
À l'identique, on commence par le président Macron qui a fait marche arrière.
Oui, le chef de l'État avait estimé au lendemain de l'incendie de Notre-Dame que la reconstruction de la flèche pourrait être inventive. Alors on imaginait déjà une cathédrale new look, symbole d'une ville tournée vers le futur, avide d'architecture audacieuse. Mais voilà, patatras, hier et après avoir consulté des historiens, des architectes et des experts, Macron a donc décidé que cette flèche serait... Emmanuel Macron a donc décidé que cette flèche serait finalement reconstruite donc à l'identique, très proche de celle imaginée par Viollet-le-Duc en 1859. Donc fini le concours d'architectes qui aurait pu faire entrer Notre-Dame dans le 21e siècle. On prend la même, on recommence. Un chantier reste cependant en suspens, c'est celui de la charpente qui doit aussi être construite. Alors à l'identique ou pas, sur ce sujet-là, le président laissera les experts décider. C'est moins symbolique, c'est vrai.
Dans un tout autre style, Katy Perry nous invite à sourire.
Oui, la chanteuse a dévoilé cette nuit son nouveau single, il s'appelle Smile, et il pourrait bien vous faire danser tout l'été. Alors, pour ceux qui seraient passés à côté de ce phénomène pop, Katy Perry, en quelques chiffres, c'est 35 milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming, une fortune estimée à 125 millions de dollars et une flopée de tubes. Alors, avec ce nouveau titre, la chanteuse espère une fois de plus casser la baraque. Son album est prévu pour le 14 août, mais en attendant, je vous propose qu'on écoute un extrait, ça s'appelle donc Smile.
Smile, ça peut.
C'est bien.
Ouais.
Alors, l'album donc est prévu pour le 14 août.
Les Césars du cinéma changent de statut, Damien.
Oui, nous vous en parlions hier dans le journal de la culture. Ça y est, les Césars ont donc entamé leur révolution. L'Académie a voté de nouvelles règles de fonctionnement interne. Le projet adopté prévoit une parité intégrale entre hommes et femmes dans ces instances de décision. Un tandem d'ailleurs masculin-féminin est prévu pour la future présidence. Alors les 4313 membres, c'est très précis, de l'Académie pourront désormais être candidats et choisir leurs représentants. Les signataires de la tribune qui accusaient l'Académie d'opacité et d'entre-soi en février dernier semblent donc avoir obtenu gain de cause. On va surveiller quand même dans les prochains mois.
Pendant ce temps-là, Akhenaton, membre du groupe IAM, est en colère.
En colère contre le gouvernement, et il l'a fait savoir avec une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Parce que comme beaucoup d'artistes, le groupe a vu sa tournée perturbée en raison de la crise sanitaire. Un des concerts d'IAM était prévu le 18 juillet et il vient d'être annulé en dernière minute. Et ce qui énerve le plus Akhenaton, c'est le flou des annonces gouvernementales en ce qui concerne le potentiel retour du public en salle.
On ne peut pas être trimballé à gauche, à droite, comme ça, dire « Ah, vous faites ça, vous ne faites pas ça ». On ne traite pas les autres métiers comme ça. Que les réponses soient précises, accordez vos violons et commencez à avoir un discours cohérent parce qu'il est très brouillon depuis le début. Merci.
Alors Emmanuel Macron et Roselyne Bachelot vont-ils exaucer les vœux du rappeur et clarifier la situation? En tout cas, lors de la passation de pouvoir mardi dernier, la nouvelle ministre de la Culture a promis que cette question ferait partie de ses ultra-priorités.
Accordez vos violons. Sur Netflix, un documentaire musical est plein d'espoir. Va bientôt arriver.
Exactement, c'est un film qui est en quelque sorte le prolongement d'une chanson de M. Mathieu Chédid et de son collectif L'Amomalie. Cette chanson, c'était Solidarité. En 2017, le chanteur a demandé à son ami Stéphane de Freitas de réaliser le clip de sa chanson et celui-ci lui a proposé de filmer des militants associatifs du monde entier en train de danser et de chanter sur son titre et d'en tirer un documentaire pour raconter les coulisses de cette aventure humaine exceptionnelle. Et c'est une idée qui a tout de suite enthousiasmé Mathieu Chédid.
La solidarité est un sujet très peu employé dans le cinéma c'est vrai que je suis fier et heureux de participer à ce film parce que c'est une intention tellement noble et tellement d'actualité.
On est ensemble, c'est le titre de ce documentaire, nous raconte comment ce clip a changé la vie des militants à Rio, à Bamako, à Paris ou à New York. Tous ont vu leur action médiatisée et l'histoire ne s'est pas arrêtée là, puisque grâce à cette vidéo, en fait, les militants ont eu l'occasion de structurer leur initiative et l'une d'elles a même été invitée pour parler à la tribune du G7 en 2019.
On va tout d'un coup mettre en lumière des destins, quoi, des destinées exceptionnelles et des leçons de vie. Et des choses qui nous inspirent, qui nous tirent vers le haut et qui nous donnent envie d'être meilleurs, j'espère.
Alors le film sera disponible sur Netflix mardi prochain, c'est-à-dire le 14 juillet. Donc cette année, on ajoute un mot à notre devise nationale, ce sera liberté, égalité, fraternité et solidarité.
Et l'on termine. Ah non, c'est des bons sentiments, vraiment.
Ah mais oui.
Non, je suis contente, ouais, vraiment.
Love, love.
On termine avec une avant-première et une exclue, dites donc.
Oui, une nouveauté qui devrait ravir les amateurs de pop et de rock. Le groupe britannique Django Django est de retour. Alors le Quatuor dévoilera le 22 juillet prochain un nouveau single, Spirals. L'album, lui, est attendu pour la rentrée. Et alors, une petite exclue, une invitée de marque viendra chanter sur un de ses titres, la toujours magique, envoûtante, là aussi, en plein de bons sentiments, Charlotte Gainsbourg. Le titre s'intitulera Waking Up. Mais avant cela, donc, place à Spirals. C'est entraînant, c'est enthousiasmant. Et je vous propose de prendre un tout petit peu d'avance avant tout le monde en écoutant un extrait.
Django Django Spyros. Merci de m'avoir laissé la désannonce. Damien Cabrespine, bon week-end à vous.
Merci. Hein,
reposez-vous
bon
bien. Week-end. Ouais. Carla Bruni, Carla Bruni arrive dans deux minutes avec un petit quelque chose. A tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Pascal Clark.
Vendredi 10 juillet 2020, certains partent en vacances, certains connaissent la délivrance. On attend Carla Bruni d'un instant à l'autre, elle ne va pas tarder. Et en attendant, le mieux est encore d'écouter son nouveau titre. Il n'y avait pas eu de nouveau titre depuis 7 ans. Et voici quelque chose.
Quelque chose de tendre s'est levé. Quelque chose qui nous hante, qui nous plaît. C'est quelque chose qui nous creuse, qui nous fond et qui nous va comme un gant. Quelque chose nous dit que c'est perdu, que l'on va s'adorer sans issue et que l'on va se croquer à un bal dans. Quelque chose obstinément. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tout se pose. Quel est ce tout quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici pas? Quelque chose nous transperce comme une lame. Quelque chose nous traverse, nous réclame. Si l'on perce quelque chose en chemin, on est comme réduit à rien. Et quelque chose nous chavire, nous retient. Oui, quelque chose nous déchire, nous étreint. Et ça nous étreint le cœur et le corps. Encore et puis oui, encore. Oui, encore. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Quel est ce tout quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici? Nous réveille quelque chose comme une sorte de merveille. Si tu creuses quelque chose d'aussi beau, il faut te jeter à l'eau. Oui, à l'eau. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Quel est ce tout quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici?
Ça y est, quelque chose est passé à la radio. Bonjour Carla Bruni.
Bonjour.
Merci d'être dans Culture Média ce matin. C'est une journée particulière pour vous.
C'est une journée particulière, oui. C'est la sortie de ce premier single, comme on dit. C'est-à-dire en fait la première chanson de tout l'album qu'on présente.
Et vous étiez impatiente.
Impatiente, oui.
Et alors, ça fait quoi?
Eh bien, en fait, ça fait... un étrange effet, en même temps de grand plaisir et puis d'appréhension.
Appréhension ?
Un peu, bien sûr.
Que risquez-vous ?
L'indifférence. Très grand risque.
Ouais, ouais, c'est vrai. On l'a écouté, ce morceau, alors il nous manque quelques précisions, parce que vous, voilà, on l'a comme ça. Bon, parole, Carla Bruni.
Mm-hmm.
Musique.
Michel M. Salem.
Michel M. Salem. Vous revoyez en train d'écrire quelque chose ?
Ouais. J'essaie toujours d'écrire quelque chose, mais parfois rien ne vient. Et parfois quelque chose vient. Dans ce cas-là, quelque chose est venu.
Mais bon, physiquement, vous étiez où? Vous griffonniez? Comment ça se passe, une
Moi,
chanson?
Moi, j'écris toujours dans mon petit bureau. J'ai une petite pièce dans ma maison. C'est la chance, comme ça, je peux voir mes enfants, mon mec, mon chien, le chat, si j'ai besoin. Mais je suis toujours enfermée là.
À la main?
Oui, à la main, bien sûr.
Pourquoi, bien sûr?
Eh bien, parce que, en fait, je garde... J'écris sur carnet, à la main, parce que les chansons, c'est des petites choses. C'est des petites quelque chose. Et c'est pas des choses où il nous faut un traitement de texte. Ça marche pas comme ça. Il y a un mouvement, il y a une phrase qui est reliée à une émotion, qui est reliée à un sentiment, dans mon cas, enfin moi je parle pour moi, hein, qui est rarement intellectuel. Et donc ce n'est pas quelque chose de très réfléchi. C'est d'ailleurs pour ça que quand on me demande d'expliquer les chansons, j'ai beaucoup de mal parce qu'elles s'expliquent un peu d'elles-mêmes en fait. On l'aime ou on l'aime pas la chanson, c'est aussi
oui,
simple.
Chacun fait son chemin par
voilà.
rapport à la chanson.
Et puis j'ai une tendance à aimer les ratures parce qu'en fait, dans les ratures, parfois il y a d'autres chansons. J'ai des ratures illustres, pas les miennes, hein, mais j'ai par exemple des ratures de Paul Verlaine, j'ai des brouillons de Paul Verlaine. Et sous les brouillons, on voit les mots qu'il a enlevés, qu'il a choisis. Alors, loin de moi l'idée de me comparer à Verlaine, mais j'aime l'idée de garder les brouillons parce que dans les traitements de texte, on les élimine.
Et pourquoi des ratures deviennent-elles ratures ? Est-ce qu'il y a une vérité dans l'écriture de chansons ? Pourquoi on garde, pourquoi on ne garde pas ?
Vous posez une vraie bonne question parce qu'en fait, c'est la musique qui fait qu'on garde ou pas. Il y a beaucoup de limites c'est-à-dire. Évidemment que les paroles sont importantes dans une chanson, mais la chanson, elle est portée par la musique. Donc, de temps en temps, la musique, elle prend le pas et alors on garde une parole plus musicale. Je me souviens toujours d'Étienne Rodagil, qui est un modèle d'écriture pour moi, de liberté, de rythme. Et c'est rare un auteur aussi bon sans être compositeur, hein, parce qu'il avait une musicalité dans ses textes incroyables. Et j'ai toujours le souvenir d'Étienne Rodagil en train de dire « N'oublie pas d'alterner les syllabes ». Alors là, ça va faire rigolo à l'antenne, mais il disait « une molle, une dure, une molle, une dure ».
On la garde ?
Allez, on la garde.
Alors, bon, évidemment, si vous écrivez quelque chose, c'est pour ne pas avoir à le définir. Plus que c'est tourner autour, c'est ça, c'est définir un sentiment, c'est très compliqué. Mm-mm. On peut tenter de s'en approcher. Ce quelque chose, c'est plutôt dans le cœur, plutôt dans le corps.
Ah ben, c'est très difficile de dissocier les deux. On sent bien que quand le cœur est là, le corps est ravi, et vice-versa. Vraiment dans les deux. En fait, c'est quelque chose, ça serait le désir. Mais pas forcément le désir du corps, le désir tout court. Il y a mille manières de désirer, quoi. Il n'y a pas que le désir physique. Il y a le désir tout court. En fait, le désir, je pense que c'est l'énergie, c'est le sel, c'est le flot de notre vie.
Et quand le désir n'est pas là, comment fait-on ?
Quand le désir n'est pas là, c'est grave. Ça veut dire qu'on a une dépression. C'est ça. Je veux dire, le désir, c'est le sel de notre vie. Je ne parle pas du désir amoureux, encore une fois. Le désir diffus, le désir de construire, le désir de vivre, le désir de se lever, le désir de rire, le désir de voir autrui, le désir de se connecter.
Ça vous est arrivé déjà ?
De ne pas avoir de désir ? Oui.
Comment fait-on ?
Moi, heureusement, ça ne me dure jamais longtemps, mais je pense que l'absence de joie et de désir, c'est une grande... C'est la mélancolie.
C'est bien, la mélancolie, c'est un beau sentiment,
la mélancolie, oui. C'est un beau sentiment jusqu'à un certain point, non ?
Bah oui, jusqu'à la dépression.
Jusqu'à la tristesse.
Ouais. Enfin, il y a beaucoup de phases là-dedans. Hein. Les sentiments évoluent tout le temps. Quelque chose, est-ce que tous les quelque chose se ressemblent ? Non, ça dépend du moment. Hein,
ça oui, ça non, dépend mais... du moment, absolument. Oui.
Non, mais je veux dire, est-ce que plus on avance dans la vie, est-ce plus ce quelque chose évolue ou on peut dire que vous avez les mêmes quelque chose que quand vous aviez, je ne sais pas, 16 ans, 20 ans, 25 ans ?
Je crois que plus on avance dans la vie, plus on mesure le fait qu'en fait, sans ce quelque chose, il n'y a pas grand-chose. Et il y a des statistiques qui ont été faites par des scientifiques, par des grands professeurs, notamment de Harvard. Il y a une grande étude qui a été faite, une étude qui... La plus vieille, la plus ancienne étude faite sur l'être humain, une étude absolument inutile. Elle n'a aucune relation médicale, ça ne porte à aucun objectif. C'est juste pour étudier les gens. Et c'est 800... personnes qui sont étudiées depuis 1940 et il en reste quelques-uns de vivants. Ce sont ceux qui ont donné beaucoup de place à quelque chose.
Carla Bruni est dans Culture Média ce matin. On a pas mal de petits quelque chose à évoquer. Belle matinée à vous sur Europe 1. On revient.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Et ça y est, le quelque chose de Carla Bruni est parti dans la nature. Qu'est-ce qui peut lui arriver de mieux ?
Rien.
Si, bien sûr.
Il est fait pour partir dans la nature.
Ah ouais.
La musique, on rêve qu'elle parte. Ouais, on rêve qu'elle se diffuse de plus en plus.
Et qu'elle soit chantée.
C'est ça.
Ouais. Vos fans ont pu suivre comme un jeu de piste un petit peu l'élaboration de cet album sur votre compte Instagram. Alors moi j'ai pioché quelques indices parce qu'on n'a pas grand chose. Bon, alors déjà ça, c'est, l'enregistrement a eu lieu au studio Ferber jusqu'à la fin juin. Qu'a-t-il de particulier ce studio qui est situé dans le 20e arrondissement de Paris?
Ah ouais, déjà bon, c'est un studio merveilleux, c'est un studio un peu légendaire, c'était le studio de Bachung.
Arrêtez-vous là,
okay.
Ça suffit.
C'est dit. Et il y a notamment au studio Ferber un grand studio qui s'appelle le studio A. Il y a plusieurs studios. Mais ce studio A bénéficie d'une grande pièce en bois et en velours. Et dans cette pièce, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, on peut enregistrer tous ensemble, mais chacun dans sa cabine, avec des murs. Ça, c'est fantastique parce qu'on a exactement le même mouvement que si on est en live ensemble. Mais on est chacun dans sa cabine, donc on a un son. Si quelqu'un se trompe, en fait, il n'emporte pas tous les autres. On peut simplement recommencer.
Et puis c'est très confinement. En fait.
Et c'est comme ça qu'on a fait la chanson. Oui, parce que tous dans le même endroit, mais séparés par des parois de verre. Et c'est comme ça qu'on a enregistré l'album Ping en 8 jours.
En 8 jours.
Avec Albin de la Simone.
Pourquoi en 8 jours?
Eh bien, parce qu'on était en post-Covid. On devait rentrer normalement en studio le 5 mai. Et puis tout a été bousculé. Et donc après, on s'est dit. Et si on sortait cet album en octobre, et puis après on s'est précipité.
Ah ben voilà, je me demandais, il sort quand? En octobre donc.
Ouais.
En octobre, il s'appelle comment? On peut pas dire.
Mais... on hésite. En fait, j'hésite entre deux chansons. J'ai l'air ridicule.
Je pense que l'hésitation peut-être elle est entre quelque chose et.
Et le truc c'est que quelque chose, comme ça dit tout et rien en même temps.
Ben c'est ça qui est bien.
Ouais. Vous avez raison.
Non, c'est pas sûr.
C'est pas sûr.
Vous décidez quand?
Très vite.
D'accord.
avant de faire la pochette.
Oui, ça serait une bonne idée. Ouais. Album réalisé par Albin de la Simone, qui est un orfèvre. Hein, on peut
un
dire
orfèvre.
Ça. Vous les avez donc laissé quelques indices. Je pense qu'il y aura des musiques signées Julien Clerc.
Et il y en a une.
Il y en a une. Calogero.
Et il y en a une.
Qui d'autre?
Justement, Michel Amsalem, avec lequel j'ai écrit quelque chose. Et Jérémy Reynolds, qui est un ami à moi, musicien, pianiste, avec lequel j'ai écrit Un secret. Et puis, j'ai aussi coécrit avec quelques poètes. Mais
des poètes
ils sont morts.
Oui, ah oui, parce qu'en plus, vous avez donc une interaction avec l'outre-tombe.
J'aimerais bien. Mais...
Une participation de votre sœur, Valeria Bruni Tedeschi.
Oui, oui.
Elle fait quoi?
Elle, en quelque sorte, j'ai écrit. C'est la première chanson que j'ai écrite en italien, et donc elle m'a fait le plaisir de. Moi, j'aime beaucoup le travail de ma sœur comme actrice. C'est une actrice que j'admire bien en dehors du fait qu'elle soit ma sœur. Et j'aime, voilà, elle a apporté sa voix, son talent et cette espèce de petite folie qu'elle a.
Il y a un autre titre qui s'appellera Partir dans la nuit.
Oui, Partir dans la nuit, exactement.
Vous voyez, j'en sais des choses.
Mais c'est dingue.
Bah, c'est de votre faute, vous avez laissé des traces sur Instagram.
Ah, c'est cool.
Bah ouais. Après, il ne faut pas s'étonner, Carla Bruni. Que pouvez-vous donner d'autre? Non, c'est tout, comme info.
Oui, en fait, comme info, je vous dirais que c'est un album très écrit, complètement écrit.
Par vous?
Oui.
Tout?
Tout. À part quelques musiques, parce que j'aime bien ouvrir aux compositeurs, parce que la musique, c'est quelque chose, vraiment, c'est l'univers de la personne, une chose un peu charnelle de la personne, un peu individuelle de la personne. Donc, j'aime bien trouver un autre monde dans la musique parfois. Je l'ai fait à plusieurs reprises sur cet album, mais sinon, j'ai écrit les musiques et les paroles. Et je suis vraiment. C'est un album avec lequel je suis revenue à l'écriture, et c'est un grand bonheur pour moi d'écrire. Au fond, j'aime chanter pour écrire.
Alors, il y a un parallèle qui est assez tentant, reste à savoir s'il est justifié. Quelqu'un m'a dit quelque chose.
Non, mais, quelqu'un m'a dit quelque chose.
Non, mais
est-ce
qu'il y a un esprit commun? Il y a quand même 18 années d'écart entre ces deux chansons. Ça file d'ailleurs.
C'est dingue.
Ça vous effraie?
Oh là là. Huh. Donc, c'est peu dire.
Quelqu'un m'a dit quelque chose. Ça colle?
Ça colle. Ça colle. Ce sont des expressions communes, n'est-ce pas? Qu'on dit communément toute la journée. Et qui ont la particularité, toutes les deux, d'être en même temps très précises et très floues. Quelqu'un m'a dit, on comprend bien que ce n'est pas le quelqu'un qui compte, mais ce que l'on vous a dit. Hein. Donc ça fait l'impasse sur la personne. On dit quelqu'un m'a dit, quand, peu importe qui vous l'a dit, au fond. Sinon on dit, Georges m'a dit. Et quelque chose, c'est pareil, c'est quand on ne peut pas mettre exactement le mot exact sur les choses.
Vous avez l'impression d'avoir acquis un savoir-faire en ces...
Un peu. Une expérience, en tout cas.
Un peu, c'est pas beaucoup.
C'est déjà ça.
Et écrire des chansons, c'est votre vie rêvée, Carla Bruni ?
Oui. Écrire chansons, les chanter. Maintenant, j'aime même aller sur scène.
Ah, ça, ce ne sera pas pour tout de suite.
C'est totalement, oui, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais c'est vrai que...
C'est vrai que... Carla Bruni est venue ce matin présenter son Quelque chose en culture média. Et quelque chose me dit que l'interview n'est pas finie. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Pascal Clark.
Un gros 10h30 sur Europe 1 et nous sommes avec Carla Bruni. C'est nul, c'était juste pour la rime. avant que vous ne ressortiez Carla Bruni pour enregistrer en 8 jours donc, votre prochain album, il y a eu cette période de confinement assez inouïe, il faut dire ce qu'il y a. Vous avez été chanceuse, non, de la passer au Cap-Nègre. Oh, Cap-Nègre, dites donc au passage, ça ne va pas être débaptisé. Non, non, c'est vrai.
Je ne sais pas, je ne fais pas partie des tribunaux.
Ouais, c'était une chance pour vous d'être comme ça, dans un bel endroit, j'imagine.
Ouais.
Hein, je suis jamais allée,
mais... ouais.
Ouais, vous avez quand même mesuré la chance. Ça, ça a produit des choses comme ça en famille.
Je mesure toujours la chance. Ouais.
C'est vrai, vous mesurez la chance.
Ouais, je crois.
Vous dites jamais, bah, c'est normal.
Non. Je ne vois à peu près que ça de ma vie. Beaucoup de chance pour l'instant.
Il paraît que la chance, c'est une récompense.
Je crois pas. Ah, vous êtes comme ça, vous êtes mystique, c'est fantastique ça.
J'ai le droit.
Vous êtes judéo-chrétienne ?
Ah non.
Alors vous êtes...
Non, non, on peut être mystique en dehors de la religion.
Évidemment, évidemment.
Mais moi, on s'en fout, c'est vous. vous avez le sentiment d'avoir baigné dans la chance comme vous allez vous baigner dans la Méditerranée ?
Non, j'ai le sentiment d'avoir eu de la chance.
Et donc, vous remerciez qui pour ça ?
Le hasard, Dieu, le destin, qui sait ?
Ah oui, alors là, c'est des hypothèses différentes quand même.
Oui, bah, c'est des mots différents.
C'est des mots différents.
Peut-être pour la même chose.
Ah, bah, entre le hasard et Dieu
Bah, peut-être que le hasard, c'est la manière que les personnes... On peut appeler Dieu le hasard. Je crois qu'il n'y verrait aucun inconvénient.
si d'aventure.
Le hasard ou Dieu.
Oui, voilà. Et donc, du coup, vous êtes devenue maîtresse d'école pour votre fille.
C'est ça, j'ai beaucoup apprécié. En fait, j'ai vraiment ressenti profondément... les bienfaits de l'école de la République pendant ce confinement. Ouais, je les bénis, eux et toutes les personnes qui travaillent pour éduquer nos enfants. Parce que moi, si c'était moi qui devais le faire, ce serait une petite catastrophe.
Est-ce que cette saleté-là, ce coronavirus, est-ce qu'à un moment donné, vous avez réalisé l'ampleur de ce qui se passait ?
Quand, au moment du confinement, puisque juste avant le confinement... Moi, j'ai emmené ma fille à un anniversaire. On a voté le dimanche. On est parti. Donc, ouais, on a réalisé, comme tout le monde, finalement, assez tard. Mais c'est ainsi. Tout le monde entier est soumis et logé à la même enseigne avec cette affaire.
Non, parce qu'il y a eu cette vidéo où vous êtes apparu lors de la Fashion Week, vraiment. Vous étiez à côté, quoi. Il y avait un côté un peu bravache, vous toussiez en disant le corona.
Moi, ouais, j'étais complètement débile, en fait. J'ai fait une blague, mais après, la vidéo, elle a été montée, remontée de manière assez malveillante.
Ah oui, d'accord.
Oui, genre, je me souviens pas, mais ce dont je me souviens, c'est que j'étais absolument... Très peu de gens étaient conscients. On était entassés par centaines. Et d'ailleurs, je pense que le virus commençait à peine son chemin en Europe, mais on n'avait aucune conscience.
Alors, je l'ai regardé quand même la vidéo, même si elle est montée. Il y a un truc que je trouve incroyable sur cette vidéo. Elle ne concerne pas le corona. Hein. Vous dites là, on n'est pas féministe.
Ah bon ?
Ouais.
Je m'en souviens pas.
Ouais, ouais. Vous dites, nous, on croit pas. On est de la vieille génération. On n'a pas.
Je ne sais pas à qui je m'adressais en fait.
Bah, je ne sais pas.
Hein, mais peut-être que je répondais à quelque chose.
Parce que vous, on peut peut-être en parler. Vous ne vous estimez pas féministe ?
Si, si.
Ah bon ?
Simplement, moi, je viens d'une génération. Qui a beaucoup bénéficié d'un certain féminisme militant qui a ouvert la porte, au fond, a beaucoup de liberté pour les femmes. Donc c'est vrai que j'ai une comme reconnaissance en fait pour le mouvement féministe. Maintenant, il y a un nouveau mouvement féministe qui est moins de ma génération, qui est des femmes de notre génération, qui appartient le mouvement MeToo, etc., qui est très libérateur et très important. Moi, j'ai pas un tempérament de militante, mais j'admire le féminisme et ouais, et je lui apporte tout mon soutien.
Et vous avez toujours été bien traitée, vous avez toujours été respectée.
Moi, j'ai eu de la chance. Je n'ai jamais subi d'abus.
Chance, non.
Ah oui,
ça, chance.
C'est de la chance. Ah ben oui, parce que ça peut arriver à n'importe quelle jeune femme. J'ai été comme toutes les jeunes femmes en position de risque. J'ai voyagé, travaillé seule quand j'étais jeune mannequin pendant 12 ans. Toujours seule dans les avions, dans les pays, dans les hôtels. Non, non, ça aurait pu mal tourner pour moi aussi. J'ai eu de la chance.
Ouais. Tellement de chance là, ça vous fait pas flipper.
Pourquoi vous avez eu des problèmes?
Oh bah attendez, on s'en fout.
Bah non, on s'en fout pas. C'est pas, je veux dire, c'est pas, c'est, on s'en
bah,
fout pas.
On parle de ça. Je pense que beaucoup de femmes, oui, sont trouvées confrontées à des situations, mais
toutes les, pour ces femmes, le fait que ces mouvements d'aujourd'hui existent, c'est fondamental parce que il y a quelque chose qui vient se greffer sur un abus qu'on a subi, et c'est la honte. Et donc moi, je trouve qu'en plus d'être abusée, en avoir honte et se sentir responsable ou coupable, je trouve que c'est un peu gratiné. Et c'est ça qu'a brisé ce mouvement, c'est la honte. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivaient pas, non seulement à se remettre, à se reconstruire, mais en plus qui se sentaient profondément responsables de ce qu'elles avaient subi. Hein. C'est le monde à l'envers.
Ouais, et puis qu'on ne croyait pas en plus.
Il y a toujours
un petit doute.
Voilà,
voyez,
c'est ça. Ouais. Ou alors, est-ce qu'on l'a cherché? Ben, tout ça, c'est nommé le cœur au bord des lèvres. Donc moi, je ne sais pas la vanne que je faisais sur le féminisme. Moi, je suis une blagueuse. Et d'ailleurs, je ne blague plus du tout. Parce que si maintenant, on vient vous espionner, vous enregistrer, etc., ça, franchement, c'est un monde qui va perdre pied.
Ah oui, j'attendais la fin de la phrase.
Pas mal, non?
Ouais. Carla Bruni, moi, vous écoutez dans une des reprises que vous affectionnez, puisque vous avez même produit un album. On a choisi les Stones sur Europe 1, Miss You.
I've been holding out so long, I've been sleeping all along, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss him, yeah. Ooh, 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 mm-hmm, yeah. Well, I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call. When the phone rings, just a friend of mine says, people think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl?
Hey, where you gonna go? I'm here with some Puerto Rican friends and I just died.
Ooh, baby.
Carla Bruni dans sa reprise de Miss You des Stones. Là, j'ai une question qui craint un peu.
Ouais, vas-y. Je dois la... Allez-y. Quand même. Oui, bien sûr.
Est-ce qu'il embrasse bien Mick Jagger? Je sais pas. Oh, mais il n'y a pas de réponse. Allez, on revient avec...
Je suis trop poli, moi. Je suis poli, moi.
Non. On revient avec quelques...
À l'antenne, en tout cas.
On revient avec quelques indispensables, notamment le conseil lecture de Nicolas Carreau. Je suis désolée.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Et nous sommes toujours en compagnie de Carla Bruni. Je vous présente Carla, le spécialiste littéraire d'Europe 1. En plus, il s'appelle Nicolas. Alors,
enchanté.
Bonjour.
Nicolas.
Très beau prénom.
Ouais, c'est vrai.
Beau prénom.
Victoire des peuples, en grec.
Ouais. Ah, c'est vrai?
Ouais.
Vous le saviez?
Le peuple et la victoire.
Ah, alors mettez-vous d'accord.
C'est pas la même chose. Il y a différentes interprétations, ouais, c'est l'étymologie.
Ouais.
Nicolas. C'est un nom russe. Russe ou grec?
Grec, grec.
Ah, grec.
Moi, je vais aller faire un tour. Nicolas Carreau, ce matin, vous nous emmenez en Suisse et dans les années 80 avec La soustraction des possibles, joli titre, le dernier roman de Joseph Incardona, c'est ça?
C'est ça.
Chez Finitude.
Lauréat du prix Relais des voyageurs lecteurs, figurez-vous. Alors, je ne sais pas trop par où commencer, c'est un roman total, un roman d'amour, un roman social, politique éventuellement, c'est un polar d'une certaine façon aussi, ou un roman noir, on ne fait jamais trop la différence, c'est difficile à dire.
Commencez peut-être par nous raconter.
Ben voilà, on va faire comme ça. On est en Suisse, fin des années 80, les années fric. On rencontre d'abord Aldo Bianchi, beau gosse, 38 ans, prof de tennis, mais prof pour des dames d'un certain âge, avec un point commun, elles sont toutes très très riches. Et je vous lis un petit extrait. Un avantage de son métier est de pouvoir se placer derrière l'élève, saisir son poignet afin de lui montrer lentement le mouvement correct à effectuer. D'une voix douce mais ferme, il accompagne le geste par la parole, la lui souffle à l'oreille en quelque sorte, les corps se touchent, c'est inévitable. L'été indien permet encore de porter short et jupette de tennis et Dieu seul sait combien, avec Monsieur Sergio Tacchini, combien les tissus de ces combinaisons sportives sont minces.
C'est quel âge d'un certain âge?
Oui, c'est ça. Moi, je me posais la question aussi.
C'est plus de 55 ans. Voilà. Mais riche.
On
riche
est limite,
surtout.
On est limite. C'est un gigolo, en fait.
Exactement. Disons qu'il arrondit les fins de mois comme ça pour obtenir des petits cadeaux. Mais pour faire fortune et devenir très, très riche, c'est loin d'être suffisant parce que c'est ça son objectif, en fait. Il vient d'une famille modeste. Il voulait être champion de tennis, mais ça a raté et c'est un peu tard maintenant. Il a une revanche à prendre et côtoyer les ultra-riches ne l'aide pas vraiment à se sortir ça de l'esprit. Au passage, c'est une description incroyable de ce monde-là. Il y a du Gatsby magnifique dans sa manière de décrire ça. Mais il faut dire que Joseph Incardona, Suisse d'ailleurs, connaît très bien cette société et pas parce qu'il est multimilliardaire.
C'est un de mes livres où les souvenirs d'enfance sont les plus forts pour ces descriptions. Mes parents étaient domestiques, donc mon père était chauffeur, faisait le jardin, ma mère était gouvernante et on habitait toujours une annexe de ces immenses villas, etc. Et donc mes yeux d'enfant, 8 ans, 9 ans, 10 ans, comme ça, je voyais ces choses, mais je voyais les descriptions que je fais des tableaux de Andy Warhol, du Mao Tse-Tung, les piscines avec la moquette autour, tout ça, c'est des choses que j'ai vues. Alors quand il n'y avait personne, mon père me faisait voir ces choses, et en plus, avec ce regard presque de l'innocence, hein, on s'extasie encore plus.
Et alors, qu'est-ce qui lui arrive, vous allez me dire? Eh ben, il trouve
vous le dire,
une combine.
Sauf que je buvais un verre d'eau, voilà. Et Aldo, qu'est-ce qui lui arrive alors?
On lui propose une combine. Trimballer de l'argent, du cash, entre la France et la Suisse pour l'évasion fiscale, bien sûr. Ce faisant, on apprend toutes les techniques de l'époque, y compris les plus improbables.
On les cachait dans les portières des voitures, sous la roue de secours de la voiture. Et puis, il y a des bonhommes qui faisaient plusieurs fois par semaine des allers-retours Paris, Lyon, Genève, etc. Il y a le Mont Salève est une petite montagne qui culmine à 1300 mètres, à 10 km, quinzaine de kilomètres du centre de Genève. Et en fait, tout le monde croit que c'est une montagne suisse, mais en réalité, elle est sur territoire français. Ça, c'est un ancien conseiller de François Mitterrand qu'il avait révélé, j'ai retrouvé ça dans un vieil article de Libération. Il y a des types se lançaient avec un L-Delta depuis cette montagne et puis faisaient du deltaplane et arrivaient à un club de deltaplane qui était en Suisse. Et en fait, dans leur sac à dos, transportaient l'argent français qui a ensuite été transporté dans les banques suisses. Donc en deltaplane. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez, finalement presque de poétique.
presque.
Oui, mais il y a de la poésie partout si on la cherche, Pascal, vous savez bien. Mais donc sur ce chemin-là, Aldo rencontre Svetlana, qui travaille dans le milieu de la finance, mais qui elle aussi est d'origine modeste et qui veut elle aussi ne pas se contenter des miettes. Alors d'abord, ils s'aiment, les deux, c'est une vraie histoire d'amour, mais surtout, ils mettent les mains dedans, c'est-à-dire la mafia, la prostitution, l'argent sale, bah quoi ? C'est vrai, ils y vont, quoi, ils se mouillent, c'est pour être riche. Et ça, ça se transforme en une sorte de fresque, terrible, drôle parfois, captivante tout le temps, mais surtout, surtout, diablement intelligente.
Joseph Incardona, donc la soustraction des possibles, chez Finitude. Merci. Magnifique. Nicolas. Ah, bah dites donc, vous nous donnez rendez-vous dimanche. C'est la première, oui, de votre émission qui s'appelle comment ?
C'est les hors-séries d'été de La Voix est libre et consacrée à chaque fois à un auteur culte pendant une heure. Et là, ce sera Alexandre Dumas pour commencer.
14h dimanche sur Europe 1. C'est très bien. Vous, Carla Bruni, puisque l'idée là, c'est de faire passer, hein, de parler, de recommander des choses qu'on a aimées, séries, films, livres, vous avez quelque chose qui vous vient en tête ?
Moi, enfin, pendant le confinement, moi, j'ai lu les œuvres, j'ai relu les œuvres complètes de Camus. Donc, rien en tête, rien de neuf, mais fantastique.
En commençant
notamment
par La Peste.
Noce. Oui, en commençant par La Peste. Non, pas particulièrement, j'ai relu La Peste aussi, oui. Mais donc... En fait, il y a une édition d'œuvres complètes magnifique de Camus, de Colette. J'adore ces éditions où il y a tout, tout, tout.
C'est les éditions Quarto.
Vous avez vu comment elle est ?
Bah oui.
Il vous faut tout.
Non, non, mais pour l'édition, Albert Camus. Oui.
Il nous reste quelques minutes à passer ensemble, Carla Bruni. Ce sera tout de suite après la pub.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Bon, bah voilà, Carla Bruni, le premier extrait de votre prochain album. Quelque chose va désormais vivre sa vie. Mais quelle vie idéalement ?
La vie qu'on souhaite à une chanson, c'est la vie de rentrer dans le plus d'oreilles et de cœurs possible et éventuellement, par hasard, peut-être que parfois être fredonné. Ah, ça, c'est le pied.
Vous, votre vie, très tôt, hein, vous avez voulu faire de la musique. Ce n'est pas, ouais, c'est pas une lubie qui est venue après le mannequinat.
Non.
Donc du coup, vous avez des chansons qu'on... Pas, peut-être pas changées, on ne va pas employer les grands mots, mais enfin, qui ont vraiment été décisives à des moments dans votre vie.
Des chansons d'autrui.
Oui, d'autrui.
Bien sûr, bien sûr. Il y a des chansons qui accompagnent les joies, les ruptures, on sait ça. C'est comme le parfum, non, la chanson. C'est une chance de faire des chansons, souvent, je me dis, parce que ça évoque tant de choses, c'est tellement personnel, alors que c'est vraiment comme le parfum. Il y a un endroit dans notre âme ou dans notre cerveau, je ne sais pas où il est situé, qui, dans lequel se tatouent les chansons comme... comme nos souvenirs, quoi. Et elles sont la bande-son de nos souvenirs. Et souvent, quand je chante sur scène, je mets toujours les chansons que les gens connaissent, quoi. Parce que je sais qu'ils viennent aussi pour retrouver leurs souvenirs avec ça.
Oui, oui, c'est normal, ça fonctionne comme ça, la chanson. Mais en même temps, une chanson, avant d'être connue, il faut bien la connaître, vous voyez.
Ouais.
Donc c'est un peu compliqué. Merci beaucoup, hein, d'être dans Culture Média. Il se passe quoi pour vous après ça, là ? Parce qu'il n'y a pas de scène qui est prévue tout de suite. Donc,
non, mais peut-être si tout se passe bien. L'album sort en octobre, je commencerai la scène au printemps, si tout se passe bien.
Ouais. Et vous êtes confiante ? Vous n'en savez rien, comme chacun d'entre nous.
Je croise les doigts, parce que mon métier, il fait naufrage, hein, si on peut plus aller sur scène. Ouais, on va tous faire naufrage.
Et il y a beaucoup de musiciens autour de vous qui sont déjà dans le désarroi, c'est certain, mais dans la peine aussi, c'est difficile.
Les musiciens, déjà globalement, on est des gens dans le désarroi et dans la peine. Hein. C'est pas un métier, c'est pas l'establishment. Hein. Heureusement qu'il y a l'intermittence du spectacle, hein, qui peut soutenir ceux qui en ont besoin et leur permettre. Parce que nous, on travaille tous par intermittence, les musiciens. Donc oui, on est à la peine, oui. Mm-hmm. Enfin, pas moi, mais tous. Ouais. Mm-hmm.
Dernière chose, rapidement, est-ce que écrire des chansons, c'est sans fin, c'est chercher la chanson?
Ouais. La chanson d'amour, la chanson parfaite, la chanson qui vous bouleverse le cœur. Même si on en fait une seule. Moi, il y a des chansons que j'écoute parfois, je me dis si je pouvais écrire juste cette chanson-là, après, peut-être que je pourrais arrêter.
Et votre préférée sur l'album qui va sortir, elle s'appelle comment ?
Ma préférée ?
Ouais, votre chanson préférée.
Mais c'est comme plein de petits bébés à soi ou des plein de petits bébés chats à soi. Ben si. Ma préférée ? Ce sont que des chansons d'amour. Ouais. Donc, je sais pas. Il y en a une qui s'appelle Un grand amour. Ou alors, oui, ma préférée, c'est une chanson qui s'appelle Quelque chose. Elle est sortie aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Pourriez-la passer à l'antenne, s'il vous plaît. Merci,
ouais,
Pascal.
On l'a déjà passée, hein, mais on va la repasser probablement. Merci. Cool. Merci Carla Bruni d'être venue. Merci. On termine avec Première Page. Marie-Hélène Lafont sortira le 20 août Histoire du fils chez Buchet-Chastel. Eh bien, voici la première page.
Les pieds nus d'Armand glissent sur le parquet. Il ne veut pas réveiller Paul qui dort encore et fait son petit bruit de lèvres dégoûtant, comme un chiot quand il tète. Il va attendre un peu, mais pas trop longtemps. Il ne faut pas que Paul se réveille. Il gâcherait la fête des retrouvailles. Paul gâche tout. Paul et lui sont nés le même jour, le 2 août 1903. Il sait, par sa mère et par sa tante, qu'il n'y avait jamais eu de jumeaux dans les deux familles avant eux. Il préférerait n'être pas jumeaux, ou l'être avec Georges, sans Paul. Il comprend que c'est impossible, parce que les choses sont comme elles sont. La tante Marguerite le dit souvent. Il tourne et retourne derrière ses dents cette phrase un peu bizarre qui glisse et lui échappe. Il s'applique un moment à penser aux phrases grises de la tante Marguerite et à son odeur, cendre froide et saucisson sec. Il réfléchit beaucoup aux odeurs.
Bah ouais, c'est le principe, hein. On s'arrête au milieu de la phrase parce qu'on ne lit que la première page. Marie-Hélène Lafont, Histoire du fils chez Buchet-Chastel, à paraître le 20 août. Culture Média de l'été, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi, nous serons avec le réalisateur François Ozon qui signe le film Été 85. À suivre sur Europe 1, Roumanoff, le best-of. Je ne vous embrasse pas, bon week-end.